Bonjour, je suis ravie de commencer 2002 à vos côtés sur les ondes de Diva FM dans le cadre de mon émission hebdomadaire Alice et vous. Je vous adresse donc mes meilleurs voeux et je vous souhaite à tous de retrouver la paix et la sérénité. Pour ce début d'année, j'ai eu envie de vous apporter de la légèreté et des notes positives et c'est pourquoi le sujet d'aujourd'hui va être des clés du bonheur du couple. Et comme à son habitude, Jennifer m'accompagnera pour vous représenter en me posant des questions qui vous interpelleront de façon certaine.
Et oui, c'est certain que ça va nous interpeller, les clés du bonheur. On en a envie de ces clés du bonheur, Alice. Bonjour, merci à vous d'être là. Bonne année aussi à vous, Alice. Merci de vos vœux. Oui, des vœux qu'on espère pour cette nouvelle année, bien plus paisible, plus serein et que tout le monde se porte bien. Ça, c'est évident. Alors, vous avez envie de nous faire du bien, Alice, encore une fois. Et c'est vrai que dans la vie, l'amour est tant présent, l'amour familial, l'amour de couple. Mais là, on va parler donc de couple, si j'ai bien compris, Alice, puisque vous allez faire presque la vaudou de l'amour, vous allez nous dire comment on va pouvoir trouver le bonheur auprès de notre moitié avec presque un guide, c'est ça ?
C'est ça, tout à fait. Je ne sais pas si j'utiliserai le terme de vaudou, mais oui, je veux dire, on va discuter un petit peu de tout ce qui se joue en amour, quelque part, c'est comment construire ou cultiver son couple pour faire en sorte qu'ils réussissent le mieux possible et qu'ils durent le plus longtemps possible aussi.
Il y a vraiment presque un guide de ça. Il y a presque ces solutions, ces conseils que vous allez nous donner. C'est valable vraiment pour tout le monde, Alice ?
Alors, on va dire que bien évidemment, chaque couple est à part, chaque cas est unique, mais les fondations restent importantes. Dans les clés que je vais vous donner aujourd'hui, on va dire la plupart vont être applicables à tous les couples, en fonction bien évidemment de la valeur que chacun met dans tout ce que je vais énumérer. Mais il y a quand même certaines bases qui doivent être solides pour permettre effectivement de mener à bien, on va dire, cette vie à deux.
En quelque sorte, c'est quoi ? C'est l'implication, la volonté qu'on va y mettre aussi dans toutes ces étapes, dans tous ces conseils ?
Tout à fait. Moi, j'ai envie aussi d'utiliser le mot de bienveillance. Tout simplement, de dire que, pas parce qu'aujourd'hui peut-être c'est compliqué aussi dans mon couple, que ça peut l'être demain. Quelquefois de comprendre une situation, un point de vue, ou de voir, on va dire, les choses différemment, peuvent aider effectivement à un petit peu débloquer quelquefois ou certaines rancœurs, ou certains questionnements qu'on peut avoir.
Oui, ça va démêler, je comprends bien, des situations qui parfois pourraient être figées, parce que on ne sait pas non plus comment s'y prendre, on n'a peut-être pas les bons mots, tout ce qui pourrait être autour de ce démêlage, en quelque sorte. Donc, vous allez être là, encore une fois, et merci Alice pour cela. Alors, est-ce qu'on peut quantifier ce nombre de conseils que vous allez donner aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, je suis partie sur une base de 10 clés.
10 clés, les clés du bonheur.
Voilà, dans le thème de l'émission.
Tout à fait. Après, d'accord.
Chacun fera ce qu'il voudra comme il pourra. Ce sont des 10 clés qui peuvent être importantes en théorie. Et après, en fonction des histoires de chacun, on va démêler un petit peu ce qui peut être peut-être plus important ou mis de côté. Mais bon, si on a déjà tout cela, c'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal. Donc, toutes ces clés, si je comprends bien, elles vont aborder plusieurs thèmes. Ça ne va pas être que sur une thématique proprement dit.
Non, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et j'ai envie de dire aussi que ça va toucher, on va dire, tous les couples. Parce que, chacun aussi a sa notion du couple. Mais on va parler vraiment du couple amoureux, on va dire, qui veut une histoire et qui a envie de croire à son histoire. Aussi, certains couples ont une durée de vie dans le sens où certaines histoires se sont terminées ou vont se terminer. Mais j'ai envie de dire, ce ne sont pas forcément non plus les histoires les plus courtes qui sont les moins fortes. Moi, je pars du principe que voilà, lorsqu'on est dans une histoire, qu'on a envie d'y croire et en fonction de ce que l'on a envie de connaître et de s'apporter réciproquement, autant le vivre le mieux possible.
autant le vivre le mieux possible, c'est ce qu'on comprend à travers vos mots. Mais je rebondis sur ce que vous disiez, Alice. Aujourd'hui, il y a des auditeurs qui sont en train de nous écouter, sentent que la relation est presque sur le point de se terminer et que malgré peut-être des efforts qu'on a cru faire, est-ce que peut-être ces conseils que vous allez nous donner, ces clés, permettront peut-être de arranger la situation, ça, est-ce qu'on peut croire encore à quelque chose ou pas?
Ben, en fonction, ça sera plutôt peut-être une forme de remise en question, de faire le point sur ce que je vais énumérer et on va dire thème par thème, on va dire thématique par thématique, voir si finalement, est-ce qu'on s'est posé les bonnes questions et moi, ce que je dis très souvent, c'est allons jusqu'au bout du couple et voyons s'il peut être sauvable ou non.
Allez, donc sans plus tarder Alice, puisque vraiment on a envie de connaître tous ces conseils, toutes ces clés, les clés, chers auditeurs, voilà, si vous nous rejoignez, vous êtes dans l'émission Alice et vous, votre psychanalyste dédiée uniquement pour vous sur Diva FM, qui est là pour vous apporter du réconfort, des réponses à des questions que vous posez sur votre état, votre bien-être, votre vie. Et aujourd'hui on va parler du couple, rendez-vous compte, le couple, celui que parfois il nous tracasse tant parce qu'on n'est peut-être pas satisfait de la manière des choses dont ça se déroule, peut-être on se dit l'autre n'est pas assez en train de me regarder, de faire attention à moi, et du coup voilà, on va aujourd'hui essayer de se dire quelles sont les clés du bonheur. Alors Alice, première clé. Alors, on peut dire.
Donc la première clé que je vais énumérer est la communication. Peut-être cela peut sembler basique et logique, mais moi je me rends compte à tel point et combien de fois lorsque je reçois ces couples en thérapie que la communication finalement n'est pas si bonne que cela. Moi quand je parle de communication, je parle de langage en commun.
Et c'est ce qu'on avait déjà vu, Alice, c'est ça tout le problème, c'est que parfois on échange mais on n'a pas la bonne manière quand on échange, parce que souvent on dit qu'il y a deux langages, il y a deux langues, celle des hommes, celle des femmes, et souvent c'est là où le bât blesse, c'est que avec nos mots on a l'impression qu'on s'exprime bien et qu'on se fait comprendre. C'est pas une question d'intelligence ou de vocabulaire, hein, on est bien d'accord, mais c'est la manière dont on exprime voilà notre mal-être ou notre besoin, et souvent c'est pas perçu comme on le pense, que ça soit une partie ou l'autre. C'est bien ça, c'est ce qu'on a vu souvent dans les témoignages que vous avez.
C'est bien ça, effectivement. Voilà, c'est bien ça dont il s'agit, c'est d'être sûr lorsqu'on dit quelque chose à notre compagnon, on va dire de s'assurer qu'il comprend exactement ce que l'on veut dire. Je suis tout à fait d'accord avec vous, on l'avait abordé, qu'il y a le langage masculin et le langage féminin, et quelquefois l'interprétation de l'autre en face va être complètement à côté, on va dire, du sens de ce qu'on voulait dire dans ce couple. Donc, c'est pour ça que important lorsqu'on a envie de poser nos mots, c'est de demander à l'autre, limite on va dire, de reformuler, de lui demander ce qu'il a compris pour être sûr qu'il ne passe pas à côté et qu'il n'y a pas mésentente et d'un thème qui à la base ne devait pas être perturbant.
Oui, c'est vrai que mais c'est, je trouve que c'est presque dur, Alice. Je pense que beaucoup d'auditeurs se disent la même chose, c'est que de juste poser la question, de se dire à l'autre, peu importe femme ou homme, dire est-ce que tu as compris ce que je veux dire. Je pense que parfois dans certaines situations tendues, si on dit voilà, tu me comprends pas, mais je t'explique comment il faut que je te le dise, tu comprends ce que je te dis. Parfois je peux imaginer que ces manières de poser les questions va de suite avoir une réplique non charmante en disant tu crois que je suis bête ou quoi si je comprends pas, mais voilà, voyez ce que je veux dire. Je pense que beaucoup de personnes sont dans ce cas.
Complètement, je comprends. Mais c'est pour ça que quand je parle de mettre en place des stratégies de communication, c'est plutôt se parler en dehors des conflits quand les périodes sont calmes. C'est à la rigueur, voyez, reprendre après les disputes, lorsque tout s'est calmé, de dire voilà ce que j'ai voulu te dire. Et comme je l'avais déjà évoqué, c'est à la rigueur de se donner des signaux lorsqu'on est en conflit ou qu'on arrive, on est un petit peu loin l'un de l'autre, pour dire ok, on arrête, on en reparlera plus tard, pour justement...
Essayer d'apaiser, de détendre la situation.
Tout à fait, parce que dans l'énervement et dans la colère, bien évidemment, C'est pas dans ces moments-là qu'on en trouve les meilleurs mots pour communiquer.
Oui, l'expression des choses, elle n'est pas la meilleure, on est bien d'accord. Alors, bon, on comprend cette importance de communication. Alors, c'est vrai que parfois, malgré toute la bonne volonté, Alice, on a pu aussi le constater dans les témoignages, dans les thématiques qu'on a abordées depuis la rentrée, que parfois, même si on y met toute la bonne volonté du monde, il y a quand même une méthode à un moment donné et qu'on n'a pas forcément tous en possession, dans nos mains. Et souvent, votre intervention, elle est quand même assez salutaire, dans le sens où on se dit, voilà, vous êtes un petit peu la transition du milieu et que vous permettez à l'un comme l'autre, à un moment donné, de dire, bon, mais écoutez, j'ai entendu l'autre, mais vous avez peut-être pas eu les bons mots pour que l'un comprenne et que l'autre comprenne également. C'est bien ça, hein?
Oui, tout à fait. C'est aussi de ça dont il s'agit. C'est pour ça que je vais aborder le deuxième point. C'est aussi en fonction de son histoire personnelle. Nous n'interprétons pas et nous ne réagissons pas de la même façon à des situations différentes. Alors, quand je dis justement pour le deuxième point, c'était s'intéresser à l'autre, c'est vraiment comprendre ce que l'autre a pu pouvoir vivre, a pu pouvoir vécu dans
son passif,
dans
en
sa vie,
quelque sorte.
Dans son passé, tout à fait, comprendre justement ses réactions d'aujourd'hui, pourquoi, on va dire, telle situation le mettant ou la mettant, on va dire, en colère, alors que peut-être c'est quelque chose qui peut vous paraître commun ou anodin pour vous. C'est-à-dire, s'intéresser à l'autre aussi, c'est simplement demander comment ça va. Combien de couples me disent, écoutez, on se dit à peine bonjour, on se demande même plus comment nous allons au quotidien. C'est juste demander à l'autre aujourd'hui comment tu vas, ben, c'est porter de l'intérêt à l'autre, et celui qui le reçoit ben, va être rassuré. Donc, on va dire, bien évidemment, il y a ce point-là qui est important, mais j'insiste vraiment, quand je dis oui, on a plein de personnes qui disent, de toute façon, moi, je ne veux rien connaître de son passé, c'est sa vie, c'est son histoire, chacun a eu son passé, oui, mais moi, je ne parle pas forcément de passé amoureux, je parle de vraiment comment ça s'est passé dans son enfance, est-ce que ça a été dans un cadre plutôt bienveillant ou satisfaisant, ou, on va dire, l'enfance a été un petit peu compliquée, avec des parents qui n'étaient peut-être pas équilibrés et équilibrants. Ce qui fait que dans la formation et les constructions en tant qu'adulte, on n'accepte pas et on n'interagit pas de la même façon.
Donc, premier conseil, on parlait donc d'échange, d'avoir les bons mots, déjà de jamais être dans la colère lorsqu'on s'exprime. Voilà, essayer de démêler les situations et quand vraiment c'est trop compliqué, n'hésitez pas. Et on l'a vu en témoignage de couples souvent sur le plateau qui étaient vraiment au bord de la rupture et qui, grâce à un moment donné à votre intervention et celle d'autres professionnels, et qui doit correspondre aussi à votre situation, hein, parce que n'hésitez pas à en changer si ça ne correspond pas, d'un moment donné, de dire, on trouve les bons mots pour se comprendre, et même si c'est par l'intermédiaire de quelqu'un, après on aura peut-être les clés, justement, de comment on peut échanger tous les deux, et en se comprenant surtout. Chacun avec, vous rappelez, ces fameux curseurs aussi, Alice, qu'on a souvent employé dans l'émission. Deuxième conseil que vous êtes en train de donner, c'est quelque part de l'empathie, de la bienveillance, et aussi donc de l'attention, en quelque sorte. Donc ça veut dire de s'adresser chaque jour en quelque sorte ou au moins assez régulièrement pour dire comment ça va ta journée, comment s'est passé ton travail, aujourd'hui les enfants, alors tu sais ça s'est passé comme ça. C'est en quelque sorte, c'est un peu l'exemple qu'on pourrait se donner, Alice ?
Oui, aussi tout à fait, pour garder le lien, garder le fil conducteur, de finalement pas être chacun de son côté dans sa vie personnelle et vraiment retrouver cette entité couple qui grandit chaque jour et faire en sorte qu'on ne s'éloigne pas. Oui, tout à fait.
Alors souvent,
mais ce que je voulais...
allez-y, excusez-moi, ouais. Alice, parce que...
Oui, ce que je voulais aussi dire, que quelquefois connaître l'histoire de l'autre, la comprendre, c'est pas non plus pour tout accepter. Vous voyez ce que je veux dire ? Quelqu'un qui a été maltraité et qui est maltraitant, on peut comprendre qu'il soit maltraitant parce qu'il était auparavant maltraité, mais si la personne ne décide pas de sortir de ce cycle, ben, c'est pas pour ça qu'on doit être victime de ça non plus dans le couple. Vous voyez ? C'est là aussi la frontière.
Alors, c'est-à-dire qu'admettons, parce que on a en quelque sorte subi quelque chose dans notre, vous voulez dire dans notre vie familiale ou dans nos relations,
oui,
aussi sentimentales précédentes.
Les deux.
les deux. Donc c'est pas parce qu'on a été, on va dire, mal considéré, maltraité, que c'est parce qu'on l'a subi que nous on doit forcément comprendre cette situation parce que lui nous l'a fait subir ou elle nous l'a fait subir. C'est ça que vous voulez dire ?
Alors je veux dire, on peut la comprendre pour justement se rendre compte de pourquoi la personne en est là. Mais ce que je veux dire, c'est que aussi à un moment donné, quand je dis on ne doit pas tout accepter, c'est si la personne effectivement se rend compte que par rapport à ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a été, elle est maltraitante, elle aussi de se prendre en charge et d'évoluer positivement.
D'accord, d'accord, on comprend ça. Là où je voulais vous demander, c'est quand vous disiez, donc dans le premier point, c'était donc de l'échange. Là, on dit de l'attention presque envers l'autre en lui demandant s'il va bien, comment s'est passé, mettons, sa journée. Mais je sais également, par expérience, quand on écoute un petit peu la vie de couple de différentes personnes, que le quotidien souvent pèse dans les relations puisque c'est le travail et puis en ce moment faut dire que l'environnement général est un petit peu lourd à supporter, donc souvent quand on rentre à la maison et qu'on a encaissé sa propre journée, les personnes n'ont pas envie de parler parce qu'elles sont fatiguées et ça leur demande presque un effort, voilà. Et quand que ça soit homme ou femme, peu importe, parfois l'échange, on a envie de le faire, on dit écoute, franchement j'ai pas envie là, je suis fatiguée, j'ai envie plutôt de me détendre, je mange mon assiette et après je vais me mettre devant le canapé, je regarde la télé, j'ai pas envie de parler. Vous voyez comment ça se passe dans ces situations, Alice ? C'est souvent ce qu'on... Eh oui, je sais, vous faites la grimace, mais c'est souvent ce qui est quand même le vécu aussi.
Alors, comme je l'ai dit, c'est déjà oser dire, ça on avait parlé, Anne, mais je ne me rappelle plus dans quelle émission, c'est quand on rentre à la maison, c'est de, on va dire, donner la tendance à l'autre. Est-ce que je suis de bonne humeur ? Est-ce que je suis de mauvaise humeur ? Est-ce que j'ai envie de parler ou est-ce que je n'ai pas envie de parler ? Vous voyez ? Parce qu'admettons, comme j'ai la personne qui est à la maison, qui est dans l'attente que le partenaire ou la partenaire rentre, va peut-être, oui, s'imaginer, je ne sais pas, peut-être, comme vous dites, une rencontre agréable, voilà, où on va pouvoir échanger. Et si l'autre a passé une sale journée en rentrant à la maison et pas envie de communiquer, là, ça va être un peu un entrechoc lorsque la personne qui va rentrer va pas envie de parler, l'autre va être dans l'attente. Et là, il y a conflit. Donc, c'est oser dire, avant de se retrouver le soir, de dire, ben voilà, où j'ai passé une sale journée, où je suis comme ça, donc je m'excuse à l'avance si je ne vais pas pouvoir parler. Vous voyez, je veux dire anticiper.
Oui, mais désamorcer
le conflit.
Oui, en gros, vous désamorcez, le futur conflit qui pourrait être là parce que l'autre est dans l'attente et l'autre n'a pas envie. Mais quand on est, je vous tarie, hein, Alice, mais quand on est dans ces répétitions et que même si nous on y pense à la nuit de dire écoute, je suis tellement tendue, sous tension en ce moment que excuse-moi si je vais te faire passer une sale période ces quelques jours parce que je suis sous pression. Voilà, donc on avertit en quelque sorte que l'ambiance ne risquerait de ne pas être au beau fixe. Mais quand la personne qui est en face est dans le même dilemme, mais qu'elle ne se préoccupe pas de ce que ça impliquera autour d'elle, là, il faut quoi ? Prendre à partie la personne et lui dire, écoute, en ce moment, je subis ça ou nous subissons ça et c'est très compliqué pour moi. C'est ce qu'il faut faire alors, Alice, dans ce cas-là ?
Tout à fait, tout à fait. Et à la rigueur, prendre en quelque sorte, c'est bizarre à dire, un rendez-vous. Dire, écoute, en ce moment, ça ne va pas. Laisse-moi 2 jours, 1 semaine, 15 jours en fonction de la situation. Mm-hmm. Et là, on se posera à ce moment-là pour que l'autre puisse mieux accepter cette période difficile.
Et essayer peut-être de sortir du contexte quotidien pour pouvoir en parler dans un contexte ou un endroit qui
neutre.
Soit neutre, voilà, qui soit pas souvent à la maison.
Est différent effectivement du cadre de la maison. On change d'environnement, on se pose et là on peut discuter si c'est possible, bien évidemment.
Alors souvent, hein, franchement, je l'ai souvent vu, même vécu. C'est vrai que souvent quand on sort du contexte quotidien, qu'on se tire un petit peu de la maison et qu'on prend presque, comme Alice le dit, un rendez-vous, c'est un très bon conseil lorsqu'il y a des conflits ou des situations un peu dures à vivre, de prendre une zone neutre, de se dire allez viens, on va promener. C'est pas forcément d'aller faire des choses onéreuses, hein, d'aller promener, de se donner un temps dédié qu'à vous pour amorcer peut-être justement et dire d'ailleurs qu'on voudrait ce moment-là pour faire le point un petit peu sur des sujets. C'est vrai, Alice, hein ? et ça désamorce souvent.
Tout à fait.
Ça désamorce et l'échange est souvent bien plus positif, efficace et apporte bien plus dans le désamorcement un petit peu de ce qui risquerait à la maison de prendre d'un coup une proportion bien plus importante. C'est vrai, il faut le dire.
C'est ça. Inutile et dommageable.
Et
tout
oui.
à fait.
Donc, c'est notre deuxième conseil, Alice. Est-ce qu'on en a fini avec celui-là, ce deuxième point
ou... Oui, j'allais enchaîner effectivement sur le troisième, qui rentre dans le cadre effectivement de peut-être d'une discussion suite à une période difficile, c'est l'écoute. C'est vraiment, lorsque échange il y a avec son partenaire ou partenaire, c'est écouter, vraiment laisser le temps de parole à la personne, de lui dire ce qu'il a ou ce qu'elle a à nous dire. Parce que comme vous savez, quand on est un peu énervé, on est un peu en conflit, on coupe la parole et on ne peut plus s'entendre. Quand j'ai écouté, c'est vraiment de dire « Ok, maintenant j'ai à te dire ça, s'il te plaît, écoute-moi sans réagir. Tu me diras ce que tu as à me dire après, mais respecte ça. » Ça paraît peut-être idyllique ou idéal comme situation, mais c'est vraiment faisable à mettre en place lorsque, vous voyez aussi cette question d'équité, d'équilibre. Lorsqu'on a l'impression que l'autre en face est capable de faire l'effort ou de respecter cette demande, ben finalement, on se sent déjà mieux. Et rien que le fait d'écouter sans juger au préalable est vraiment quelque chose de bon, voilà, qui peut aussi rééquilibrer la relation.
Oui, c'est vrai que c'est presque complémentaire à tout ce que vous disiez, puisque dans un premier temps, on est dans l'échange. Dans un deuxième temps, on est dans l'attention vers l'autre et se demander un petit peu, comment ça va vers l'autre. Donc, c'est de la bienveillance. Et puis, c'est vrai que finalement, l'écoute, ça, c'est qui est si compliqué parce que, comme vous le disiez, Alice, on se coupe souvent la parole. On est là à pas vraiment faire attention. C'est presque un bruit de fond, en quelque sorte. Et une fois que ce bruit de fond est fini, on a envie, nous, de donner la nôtre, en fait. C'est des réparties, c'est des matchs de tennis, en quelque sorte. Et là, c'est... Comment on va dire, est-ce qu'on peut se dire, on se donne des temps, voilà, comme on est au théâtre, voilà, toi tu as tant de temps pour t'exprimer et moi je vais avoir tant de temps pour m'exprimer.
Moi alors je le conseille pas forcément, ça fait penser un petit peu aux discussions politiques du moment.
Non mais c'est vrai, ça fait 5 minutes, 5 minutes.
Voilà, c'est ça. Non, et c'est pas de ça dont il s'agit, c'est que chacun prenne le temps dont il a besoin. Peut-être que moi j'aurai 3 minutes et ça suffira, peut-être que l'autre aura besoin d'un quart d'heure. C'est vraiment laisser respecter ce temps-là, quelle que soit sa durée, de dire « Ok, maintenant tu vas m'écouter, voilà ce que j'ai à te dire. » Et l'autre en face va répondre « Ok, maintenant voilà ce que je vais répondre. » Et pareil, je vais te demander de ne pas me couper, de ne pas m'écouter, me couper et me laisser dire ce que j'ai à te dire.
Oui, en quelque sorte, presque peu importe le temps de parole dédié à chacun. Non, je vous dis ça, c'est, on va pas se compter, on va pas prendre le téléphone et mettre le chronomètre, on est bien d'accord, ça serait quand même une situation assez rocambolesque. Mais... comme souvent, les femmes même ont la réputation d'être plus expressives et un peu plus impliquées dans le temps de parole. Alors souvent, on va dire peut-être le monsieur il aura 3 minutes et madame elle aura une demi-heure. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est là que je me dis peut-être c'est pas si équitable et équilibré dans l'échange. Si madame a beaucoup plus à dire que monsieur par exemple, parce que monsieur sera plus difficile à s'exprimer. Vous voyez ?
Aussi, mais après ce qu'il faut savoir c'est voilà, justement, là, on va venir au quatrième point. C'est comme je dis, c'est exprimer ce qui va. C'est important quand on vit des périodes agréables, quand on est content de son partenaire, de sa partenaire, dire voilà, là, ça m'a fait plaisir. Là, j'ai passé un bon moment. C'est vraiment pointer et exprimer ces bons moments. Mais aussi, ce qui est important, c'est oser dire ce qui ne va pas. Alors, ce n'est pas oser dire ce qui ne va pas sous terme de reproche, mais oser dire ce qui ne va pas par rapport à ce que l'on ressent soi-même. Après, ce qui est très connu aussi, qui peut être basique, comme on dit, le tu, t'es tu. Voilà. C'est-à-dire, lorsqu'on parle à l'autre, ce n'est pas s'adresser sur un ton accusateur, mais partir de soi, de ce qu'on ressent, de ses sentiments, pour ensuite, effectivement, pour pouvoir laisser la place à l'autre de s'exprimer.
C'est vrai qu'il y a le ton accusateur qui n'est pas bon dans ces échanges-là.
Non.
Reproche.
C'est de pas dire oui, voilà, c'est tu as fait ça, regarde comment tu te comportes. Non, c'est dire voilà comment je me suis sentie quand il y a eu telle scène. Voilà quand je me suis sentie quand tu m'as parlé comme ça. Voilà, vraiment toujours partir de soi pour justement laisser la place à l'autre et pour éviter que de suite, comme on dit, il nous saute dessus et pour nous mordre entre guillemets. Parce que comme je dis moi, le but d'un couple, lorsqu'on on veut rester ensemble, il faut que ce soit constructif. Je sais même les disputes doivent être constructives. Parce que combien de fois on tourne en rond, ce sont toujours les mêmes sujets qui reviennent, qu'on n'arrive pas à démêler. Et à un moment donné, je dis, c'est dommage, c'est posons réellement la problématique, disons ce que nous ressentons. Et pour moi, dire ce qu'on ressent, c'est aussi une preuve d'amour. C'est voilà, j'en parlerai après, ça, je t'aime, je te fais confiance. Et si je te le dis, c'est que j'ai envie de croire, j'ai envie de faire perdurer ce couple. C'est pas dans le but de faire mal.
Oui, on comprend bien. C'est exprimer quelque chose sur lequel on a vraiment un mal-être qui nous touche, mais c'est dans le but de progresser, de faire évoluer les choses et qu'elles ne restent pas bloquées à ce stade-là. On est tout dans la bienveillance même de notre couple, en fait, puisqu'on a envie que ça se passe bien.
C'est ça, parce que finalement, l'autre n'est pas à l'intérieur de nous, ne sait pas ce qu'on ressent et quelquefois ne pense pas faire mal ou dire mal. Et lorsqu'on lui exprime l'impact négatif que ça peut avoir sur notre morale ou autre, finalement, peut-être qu'il va vouloir faire attention la prochaine fois.
Alors, c'est vrai que c'est tout un travail quand même, hein, parce que c'est tout un travail de psychologie en quelque sorte, parce que c'est vrai qu'il faut un petit peu tordre la facilité des choses. Voilà, il faut jamais choisir la facilité, au contraire, plutôt la difficulté, mais pas la difficulté de s'exprimer. Mais c'est vrai que c'est vrai qu'on aurait tendance à dire, voilà, tu vois en ce moment ce que tu fais, ça me fait ça, voilà, tu es pas sympa, tu es pas ci, tu es pas là. Et là, c'est vrai que tous ces boubouboubou qu'on peut se dire, ça va être des tirs à balles réelles et les personnes vont se les prendre et de suite on va avoir la réaction qui va en découler, mais instantanément. Alors c'est vrai que quand vous êtes en train de nous le dire, voilà, faites, chers auditeurs, un conseil, ce qu'Alice vous préconise, c'est vrai que pour l'avoir essayé également, c'est vrai qu'on se dit, voilà, il faudrait que je t'exprime ce que je ressens en ce moment, lorsqu'il s'est passé ça, je l'ai ressenti comme ça, en quelque sorte, voilà, je sais que tu n'as pas peut-être voulu faire mal, mais moi c'est ce que j'ai ressenti à ce moment-là. En gros, c'est comme ça, hein, qu'il faut le faire, Alice.
Tout à fait, c'est voilà. Tout à fait ça que je préconise.
Et c'est vrai que ça va beaucoup mieux quand ça se passe comme ça.
Oui, par la suite. Alors comme je dis, c'est pas parce que ce n'est pas la première fois, au premier essai que ça fonctionne. Lorsqu'on met ces bases en place, qu'on doit lâcher l'affaire. C'est oser faire le point aussi, de dire voilà, on a essayé, ça n'a pas fonctionné, ben, la prochaine fois on le fera de cette façon. Ça peut vraiment se passer en douceur, mais vraiment, j'ai vu des résultats qui ont pu être... très satisfaisant dans certains couples et puis ça renforce et ça consolide aussi l'amour. Et oui. Parce que bien évidemment, le point voilà, sur lequel j'allais aller, les deux prochains points, c'est aussi sur la confiance. Alors bien évidemment qu'on ne peut parler que quand on se sent en confiance. Ça aussi, c'est faire le point, est-ce que je lui fais confiance ou est-ce que j'ai l'impression qu'il ou qu'elle me fait confiance. Parce que quand on est dans un couple, on va dire dysfonctionnel, où il y a pu y avoir certaines problématiques, vous voyez, ou admettons, dans un couple, ce qu'on appelle quelquefois dominant-dominé, quelqu'un prend peut-être plus le pouvoir, bien évidemment que dans ce contexte-là, ça peut être plus difficile de faire confiance. Parce que, comme on sait, malheureusement...
Ça serait notre quatrième point, Alice, la confiance, en quelque sorte.
Là, j'arrive au cinquième. Hein. On a fait la communication, s'intéresser à l'autre, l'écoute en trois, en quatre, exprimer ce qui va et ce qui ne va pas. Et là, en 5, on arrive à la confiance.
À la confiance, d'accord. Cette fameuse confiance que voilà. Vous étiez en train de nous dire. C'est vrai que c'est un point quand même tellement important, la confiance. Il n'y paraît pas. Mais quant à Alice, quand on commence à avoir des doutes, on se dit, tiens, c'est bizarre que... il est rentré à cette heure-là ou elle est rentrée à cette heure-là. C'est bizarre qu'elle chatte beaucoup ou il pareil, que ça soit dans les deux sens, hein, monsieur, madame, c'est pareil. Quand on commence à avoir des questionnements comme ça, est-ce que c'est des questionnements qui sont parasites pour nous? On fait bien de se les poser, on fait pas bien. Est-ce que vous pouvez nous aiguiller un petit peu, Alice, sur ça?
Ouais. Alors bien évidemment qu'ils sont des parasites pour nous parce que ça vient ébranler, on va dire, tout notre questionnement, on va dire, sur notre couple. Quelquefois, c'est à tort. Quelquefois, c'est à raison. Moi, je pars du principe que même si tout va bien, tout n'est jamais acquis dans un couple. Vous voyez, c'est pas... il ne faut pas dormir sur ses lauriers. Même si on s'entend bien, même si on vit des belles années, il est important aussi d'être toujours dans la séduction et puis dans tout là, ce que je suis en train de dire. Et évidemment, quelquefois, il peut être légitime et naturel de se poser des questions quand il peut y avoir des changements de comportement, des changements d'organisation. Alors, on va dire dans la théorie, hein, dans le monde idéal, quand tout va bien et qu'on est effectivement dans la confiance, c'est d'oser dire à l'autre ce que nous ressentons et les questions que nous posons. Mais bien évidemment, lorsqu'on est dans ce moment où on a des doutes, on peut avoir peur d'en parler parce qu'on se dit « Oh là là, est-ce qu'il va me prendre pour un fou, pour une folle ?» parce que ça se trouve, rien ne se passe. Mm-hmm. Est-ce qu'aussi, quelque part, on a peur de savoir réellement la vérité ?
Mm-hmm. Ça peut aussi.
De mettre un pied, on n'a pas envie de mettre. Ou, quelque part, on peut avoir, voyez, ces tendances un petit peu stratégiques en disant « Oh ouais, non, mais je ne vais pas lui dire que je sais, au moins je pourrais le démasquer. » Bien sûr que ça peut exister, mais je trouve ça dommage.
Ben voilà. C'est vrai que souvent, qu'est-ce qui se passe ? Alors, c'est pas tout le monde qui est comme ça, fort heureusement, mais quand un doute se crée, forcément là, ça y est, dès que les doutes arrivent, on va dire le quota confiance commence un petit peu à chuter, et la tendance, c'est de savoir justement si ces doutes qu'on est en train de se poser, ces questions sont concrètes, réelles. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? C'est soit on va direct dans l'altercation et on dit voilà, pourquoi en ce moment-là, il est 10h du soir, tu es en train encore de chatter, après carrément le pire c'est d'aller récupérer les téléphones ou quoi pour voir s'il y a eu quelques échanges qui pourraient être suspicieux, voir certaines personnes arrivent à suivre leur conjoint ou leur conjointe pour aussi épier un petit peu la journée si elle est réellement comme ils la disent. Quand on en arrive à là, c'est quand même un petit peu, moi je trouve, presque la fin d'une relation quand même, hein, quand on arrive à être dans tout cela, à perdre la confiance, qu'est-ce que vous en pensez, Alice ?
Moi, j'ai envie de dire, c'est plus... est-ce que la confiance est perdue et comment faire pour la retrouver ? Et est-ce qu'elle est perdue à tort ? Moi, dans ces cas-là, ce que je propose, mais pareil, c'est dans le monde idéal, hein, mm-hmm. c'est d'être factuel, dire voilà, essayer, même si on n'en peut plus, de prendre un moment calme pour dire voilà. Actuellement, tu rentres à telle heure alors que d'habitude, il se passe ça. Je ne te vois plus sur ton téléphone. Un tel est entré dans ta vie, on ne sait pas pourquoi. Est-ce que tu pourrais m'en parler ou pas ? Voilà. Je sais que c'est difficile, mais comme je dis après la question...
Et si la réponse, c'est non, parce que c'est mon travail, c'est ma sphère privée, je n'ai pas envie d'en parler. Voilà, si on a ça.
Bah, c'est de dire, bah, écoute, moi, à ce moment, ça me pose problème. Explique-moi ce qui se passe. Si tu as besoin de temps, si tu as besoin d'indépendance, il n'y a pas de souci. Mais comment tu peux faire pour me rassurer ? Si la personne est saine et que c'est vraiment un moment d'éloignement parce que la personne a besoin de se retrouver, elle saura être honnête et le faire. Et si la personne est embarquée dans une autre histoire, je veux dire, après, à voir ce qui se passe. Mais vraiment, comme je dis, la question avant tout de se poser, avant d'en parler, c'est est-ce que j'ai envie de savoir la vérité ?
Ça, c'est un gros dilemme, Alice. Voilà, ça, c'est un gros
dilemme. Non, mais vraiment. Non, mais c'est aussi, moi, c'est quand on en parle, c'est ce que vous voulez savoir, est-ce que vous voulez pas savoir. Qu'est-ce qu'on fait ? On prend pas les mêmes directions, on n'agit pas de la même façon. Soit je veux rien voir, les personnes ne peuvent pas, à ce moment précis, peut-être affronter la situation, donc ils disent on va attendre et je verrai. Puis d'autres personnes veulent directement rentrer dedans. Donc, mais il faut le faire, bien évidemment, avec douceur, mais avec du factuel.
Est-ce que la jalousie, Alice, fait partie du manque de confiance ? On sait qu'il y a des jaloux...
pathologiques.
Voilà, pathologiques, chroniques même. Ouais. Est-ce que ça fait partie d'un manque de confiance envers l'autre ou même un manque de confiance aussi en soi ? On ne va pas faire le thème, hein, mais juste comme ça, rapidement.
Bien sûr.
Est-ce que ça peut être aussi ça ?
Bien sûr. Alors... deux cas. Bien évidemment, très souvent, ça vient plutôt toucher un manque de confiance en soi. Mais dans quelques cas, il faut avouer qu'il y a un des deux partenaires qui vraiment va trop loin et se met dans des situations où tout le monde pourrait être avec cette situation de jalousie. Quelqu'un voilà, qui est trop dans la séduction, quelqu'un à l'air de rien, qui va toujours aller parler à des hommes ou à des femmes et qui n'est jamais très clair, bien sûr que ces personnes-là vont engendrer de la jalousie. Et bien évidemment, si la jalousie, on va dire, est plutôt récurrente alors que la personne, on va dire, est plutôt tranquille, l'œuvre va s'interroger sur soi en disant finalement, si je suis jalouse ou jaloux de lui ou d'elle, c'est que quelque part, je n'ai pas assez confiance en moi, bien évidemment.
Et oui, parce qu'on les voit aussi, ces situations qui sont invivables pour les personnes, aussi bien quelque part qu'ils les vivent, parce que dans celui qui est en face, on va dire, des personnes qui sont jalouses, ça peut être sur tout et sur rien. Donc c'est invivable, et c'est invivable aussi pour les personnes qui le sont jalouses, puisque franchement, elles étouffent les relations, et généralement, elles sont compliquées à avoir, on va dire, une relation durable. Donc ça serait peut-être un jour un autre thème, pourquoi pas, aborder. Donc, on était donc dans la confiance dans ce cinquième point, puisqu'on est en train de vous donner, chers auditeurs, les clés du bonheur, en quelque sorte, la vie idéale du couple, et surtout, comment entretenir la flamme, faire en sorte que tout se passe au mieux. Voilà, on n'est pas en train, de toute façon, il n'y a pas de couple parfait, Alissa, on l'a bien vu. Non. Chaque situation est bien propre à chacune. Donc, si on va sur le sixième conseil.
Pour continuer sur la confiance, c'est la notion de respect. Voilà. Ouais. C'est un terme aussi qui peut paraître logique, basique, mais tout le monde ne se respecte pas. Se respecter, c'est
accepter. Voilà, le respect, c'est quel niveau, Alice ? Parce qu'on de suite, on va se dire respect, c'est vulgarité, gros mots. Voilà, c'est pas forcément ça.
C'est pas forcément ça. C'est aussi accepter que l'autre puisse être indépendant, que l'autre puisse aussi avoir son jardin secret. C'est-à-dire, quand on est en couple, on n'est pas censé tout savoir ce que l'autre fait, ce que l'autre dit aux personnes. C'est vraiment respecter cette sphère-là. C'est aussi respecter ses besoins.
Ça ne va pas à l'inverse de ce qu'on était en train de dire par rapport à la confiance, justement ? Si on est en train de... Mais admettons tout à l'heure ce qu'on disait, vous rappelez quand on disait « Oui, il y a quelque chose qui me choque un petit peu parce que ça me gêne que je sache pas où je te vois faire quelque chose. » Mais si ça concerne la sphère privée, vous voyez, son petit jardin secret...
Mais il faut pas. Je comprends, mais il faut pas l'emmener en disant c'est mon problème et ça te regarde pas. Bien évidemment, c'est de dire voilà, il y a des personnes qui ont besoin de, il y a des gens solitaires, il y a des gens qui ont besoin d'indépendance. Et de toute façon, il est très sain de s'épanouir aussi à l'extérieur du couple. Sur tout ce qui est fusionnel et mauvais, on peut pas vivre l'un avec l'autre, l'un sur l'autre. Alors dire c'est excessif, tout ce qui est excessif est mauvais. C'est-à-dire ça peut être un couple fort, en émotion positive. Ça veut dire qu'un jour ou l'autre, il y aura bascule et ça basculera dans l'émotion négative. Et donc finalement, des personnes qui vont se déchirer, oui. C'est ce qu'on apprend en psychanalyse, tout ce qui est excessif est forcément mauvais.
C'est pas ce qu'on se dit, on se dit au contraire. Au plus c'est fusionnel, au plus c'est dans la passion, au plus on fait de choses ensemble, au mieux c'est quelque part.
Et c'est grâce à ces histoires-là qu'on a aussi plein de faits divers. Vous voyez ? Aussi, les couples fusionnels, passionnels, finalement, sont tout le temps ensemble, ne peuvent pas être l'un sans l'autre, malgré, on va dire, la qualité de la relation. Ils se tuent à petit feu, si même dans la réalité, quelquefois, ils le font réellement pas à l'acte. Voilà, je vais à l'extrême.
Oui, bien sûr.
Dire que voilà, en fait, l'équilibre, c'est vraiment d'avoir, on va dire, ces moments en couple, mais d'accepter que notre partenaire puisse avoir ses moments à lui ou à elle, sans faisant du sport, sans voyant ses amis, ou si elle a un loisir, une occupation. C'est ça aussi le respect dont je parle. Alors, bien évidemment, il y a le respect verbal, mais aussi, je veux dire, ça incombe à chacun. Chacun aussi sa valeur dans le couple. Il y a des gens qui s'insultent, il y a qui ça ne dérange pas, tant mieux pour, entre guillemets. Il y a d'autres personnes. Non, mais vous voyez ce que je veux dire ? Le tout, c'est que ce soit en harmonie et en accord dans le couple. Après, gens que ça ne dérange pas. Voilà. C'est ça. Et après, bien sûr que quand je parle de respect de l'autre, c'est aussi de ne pas franchir les limites inacceptables. Là, on parle de violence physique et psychologique.
Bien sûr, on est bien d'accord.
Donc ça, bien évidemment, les accarte. Mais c'est vraiment respecter ce qu'est l'autre avec ses besoins.
C'est vrai. Voilà. C'est vrai que, par exemple, souvent, on peut... là aussi, c'est des constats quand on voit autour de soi. Parfois, dans un couple, l'un arrive avec une passion. Par exemple, une passion sportive ou loisir. Et c'est vrai que parfois, lorsqu'il y a couple, il y a aussi extinction des loisirs, justement. Et parce que la personne va dire, écoute, maintenant, il faut qu'on passe du temps ensemble. Tu n'as plus le temps de faire ça. Ça peut être des gens passionnés de sport qui dédient une à deux fois ou trois fois par semaine un temps à leur activité. Et d'un coup, le fait d'être en couple, certains vont dire non, écoute, moi je préfère mieux qu'on aille sortir, qu'on aille faire ça et que tu arrêtes un petit peu d'aller faire ton sport. Là, c'est ne pas respecter quelque part l'autre. On est bien d'accord, c'est cette forme-là que vous disiez. Et ce n'est pas normal de demander ça. Voilà.
Non, ça ne devrait pas avoir lieu parce qu'on n'est pas censé changer l'autre. On évolue ensemble en couple. on prend des manières différentes de couple. Alors bien évidemment que si la passion de l'un, c'est de peut-être passer 3 heures par jour à faire du vélo et autres, et qu'on peut avoir des projets en commun de partir en week-end,
c'est des compromis, bah
de temps en temps. Voilà, c'est ça, c'est plutôt une histoire de compromis. Mais c'est, moi, je suis pas du tout d'accord avec, voilà, avec ces couples qui arrêtent toute leur activité, leur passion, parce que ils viennent de rencontrer quelqu'un qui leur empêche de, non, là, on n'est pas dans quelque chose d'équilibré et de sain.
Voilà, le
après,
respect,
tout
ça
est
fait...
compromis. Voilà.
Et le respect fait partie justement aussi, par exemple, d'une situation semblable à celle-là. Alors, on est sur la confiance et maintenant sur le respect. Mmh. Et de vers quel point on peut aller encore se diriger vers les clés du bonheur, Alice ?
Sur accepter les différences. Pas parce qu'on n'est pas pareil, pas parce qu'on n'a pas les modes de pensée, qu'on ne peut pas s'aimer, qu'on ne peut pas être ensemble. Vous voyez, il y a deux croyances. Il y a les croyances où il faut trouver son double pour vivre le couple parfait, ou il y a la croyance, il faut que je trouve mon opposé pour que je m'équilibre. Vais-je dire, tout est faux et tout est vrai.
Et oui, justement, c'est-à-dire, quel est le bon là-dedans, Alice ?
Mais c'est comme je dis, je pars du principe qu'on ne choisit pas consciemment de qui on tombe amoureux. Si la personne est bienveillante, si elle nous apporte du bien-être, s'il y a ce respect, s'il y a cet amour, pourquoi empêcher une histoire ? Pourquoi mettre fin à une histoire si finalement on ne s'entend pas sur quelques points qui finalement ne nous empêchent pas d'avancer ensemble au quotidien ? Vous voyez ce que je veux dire ?
Alors Alice, justement, il y a des différences qui se créent parfois. On se dit, comme vous le disiez il y a quelques secondes, que le couple idéal n'existe pas. On n'est pas obligé d'être issu du même monde, cercles familiaux avec les mêmes éducations. C'est vrai que parfois, on voit des couples qui sont complètement atypiques et qui ne viennent pas du tout des mêmes éducations et tout ce qui va avec. Mais malgré tout, est-ce que quand il y a ces différences, par exemple au niveau de... Parce que généralement, on est comme la famille nous a faites ou fait. C'est vrai qu'on a été éduqués d'une manière et que parfois, l'amour se fait entre deux personnes, mais l'éducation qu'on a reçue est complètement à l'opposé de ce que l'autre a comme acquis. Et quand on est face à ça, est-ce que le couple est possible ?
Oui, moi j'ai déjà vu des couples dans ce sens-là qui sont possibles. Comme vous dites, au début on pourrait dire « mais non, mais on ne les voit pas du tout ensemble, comment ils vont-ils faire ?» Mais on va dire aussi l'essentiel dans ce fait d'accepter les différences, c'est d'avoir des valeurs en commun.
D'accord. Voilà.
On peut être très différents et le fait de voir quelque part la vie de la même façon, de se projeter aussi dans quelque chose qui peut nous ressembler à tous les deux, peut faire tenir le couple.
D'accord. Vraiment, c'est pas obligé qu'on soit issu vraiment d'un même sein familial avec les mêmes origines, les mêmes éducations, aussi le statut professionnel, financier, tout ça. Vraiment, ce ne sont pas quelque chose qui est fondamental dans la construction d'un couple. On est bien d'accord, Alice.
Non, bien évidemment que c'est plus simple, hein, parce qu'on voit toutes ces différences quelquefois de sociétal, comme vous dites, de culture, de statut au niveau de la société qui peuvent être différents. Oui, ça peut faciliter, mais au final, c'est pas ça non plus qui fera que le couple sera mieux qu'un autre et que l'entente sera forcément meilleure. Donc non, moi j'ai vu des couples très différents qui ont pu effectivement avancer ensemble. Mais quand je parle d'accepter les différences, c'est d'accepter d'être avec quelqu'un qui est différent de nous. C'est, comme je dis, c'est pas forcément être avec son double qui va nous rendre le plus heureux possible. Parce que justement, quelquefois, d'être avec des personnes qui peuvent être différentes peuvent nous faire avancer aussi, beaucoup plus que quelqu'un qui nous ressemble.
D'accord. En fait, c'est vrai que ça paraît presque contraire à ce qu'on pense. Hein. Vraiment, il faut se ressembler pour vivre heureux. Et là, vous êtes en train carrément de balayer ces principes-là, de dire, voilà, vous êtes différents, mais souvent, c'est ce qui est le plus constructif, en quelque sorte.
Alors, c'est le plus constructif dans le mode évolutif, on va dire. Voilà. Mais je ne dis pas non plus qu'être avec quelqu'un qui nous ressemble est quelque chose de mauvais en soi.
Ah non, on a bien compris.
Bien sûr que c'est fluide. Mais moi, je suis là aujourd'hui pour vous dire que c'est quand même possible. Ne jetons pas l'éponge. si on est très différent, tant que l'amour est là, le respect, la bienveillance et qu'on voit l'avenir en commun, pourquoi pas essayer et puis avancer.
Bon, en tout cas, accepter ces différences et ne pas fermer la porte justement à ces différences qu'il y a entre les milieux culturels, les milieux d'éducation, de famille, etc. Donc, on voit bien qu'avec ce qu'Alice nous préconise, tout est bien possible. Alors, on était sur le 6e, 7e, on est sur le 8e, c'est ça ?
C'est ça.
Je suis Alice, je vis ça.
Très bien, je vois ça. Vous êtes une bonne élève aujourd'hui, Jennifer. Merci. Bravo.
Merci beaucoup. Pour l'année, je commence bien.
C'est ça. J'allais parler justement de projets en commun ou de projections en commun. Voilà. Quand tout à l'heure, on parlait aussi de ce quotidien qui nous étouffe, qui nous fait oublier, on va dire, les bons côtés de la vie en couple. Le fait de se projeter dans quelque chose d'agréable et de doux, déjà, peut nous aider à tenir dans notre quotidien. Il y a ce point-là, on va dire, qui est important. Tout à l'heure, on disait, oui, ben, quand on n'en peut plus, l'autre a besoin d'un petit peu se renfermer. Ok, si je me renferme en ce moment, mais bon, je vais parler quelque chose de léger, de basique, mais si, je ne sais pas quoi, on doit se dire, tiens, on doit partir une semaine ensemble au mois d'avril, en vacances. Allez, hop, on va focaliser sur cette semaine au mois d'avril pour nous tenir à traverser cette période. Mais au-delà de ça, ce qui est important, comme je venais de dire par rapport à ces différences, c'est vraiment le fait de pouvoir se projeter ensemble dans une vie future permet aussi au couple de perdurer. Parce qu'il y a des gens, vous voyez, qui sont ensemble, qui s'entendent bien le temps du couple, au jour le jour où tout se passe bien. Mais finalement, lorsqu'on parle d'avenir, on ne se retrouve plus. Vous voyez, aujourd'hui, il y a ces personnes qui doivent vivre absolument en couple. Il y a ces personnes qui préfèrent vivre chacune de leur côté. Il y a des personnes qui ne sont jamais sorties, on va dire, de leur environnement, de leur vie, de leur village. Il y a des gens qui ont besoin de changer. Et en fonction de ça, on peut aussi se dire si notre couple sera viable ou pas. Il y a des personnes qui souhaitent rester, on va dire, séparées physiquement toute leur vie. Tant que ça leur convient, c'est mieux. Mais admettons, je dis n'importe quoi, si c'est aujourd'hui d'actualité que l'une des deux aurait envie peut-être de faire une retraite dans un toit commun, ben bien évidemment, là, se poser la question si l'autre le refuse. Vous voyez, c'est tous ces questionnements-là. Ou autrement, il y a des gens qui voient aussi, admettons, je parle de retraite, mais bon, ça peut être des projets d'avant, hein. On va dire leur retraite pépère en disant, ben moi, je suis plutôt casanier, je vais enfin profiter de chez moi et pas bouger. Mm-hmm. Et peut-être que l'autre à côté a envie de dire, ben non, moi, je fais la retraite, j'ai envie de partir vivre trois mois à l'étranger. Ouais, vous voyez, c'est vraiment la vision qu'on a de la vie qui est importante à poser aussi, qui permet de faire perdurer certains couples. Parce que, pas parce que je dis on vit bien au jour le jour, au quotidien, sans poser de questions. Ah voilà, il y a des personnes qui ont des histoires
donc
qui durent comme ça
sorte,
un an.
Donc en quelque sorte, c'est se projeter, vous voulez dire, quand on dit on se projette, ça veut dire qu'on parle de quoi, de nos envies futures, de l'avenir, c'est ça ?
C'est ça.
Que ça soit, mettons, voilà. Ça peut être tous les domaines, j'ai envie de devenir propriétaire et toi, tu n'as pas envie. Est-ce que toi, tu as envie de voyager, moi non. C'est ça, en fait, vraiment de, est-ce que tu as envie des enfants, moi oui, moi non. En fait, c'est tout ça, en fait, ce que vous voulez dire, Alice. Projeter.
C'est ça.
C'est presque faire quoi? Un point sur toutes nos envies et comme ça, on voit si on est raccord avec l'autre, c'est ça?
Complètement. En plus, en partant aussi du principe, parce qu'on a envie que ça arrivera. Mais je veux dire, si à la base, nos envies sont hyper différentes et à l'opposé, il y a un risque à un moment donné que ça ne fonctionne plus. Alors, c'est soit on se dit on y va et on voit, ou quelquefois on peut se dire non, mais c'est pas possible, donc je vois pas la vie comme ça. C'est comme il y a des personnes qui veulent absolument un enfant, d'autres pas du tout. Donc, il y a un des deux qui se sacrifie quelquefois par amour, qui dit bon, mon amour pour toi est plus important que mon envie d'enfant. Et peut-être faut que pour une autre personne, dans un autre couple, l'enfant sera primordial plutôt que ce couple amoureux. Donc c'est ça aussi que je parle quand je nomme ces projets en commun.
Ces projets, oui, c'est pas que les projets voyage, hein, comme on est en train d'imaginer souvent et qu'on aimerait peut-être faire en ce moment. Alors, s'évader de tous ces problèmes. Alors, 9e point, notre Alice, les clés du bonheur.
Qui est très, très important, qu'on ne peut pas négliger, c'est ce que je parle, c'est de l'harmonie sexuelle. Je veux dire, qu'est-ce qui différencie un couple amoureux, on va dire, d'une amitié? C'est la sexualité, à la base. Il y a peut-être des gens qui vont lire en disant, oui, l'amour platonique existe, mais... très souvent, lorsqu'on est en amour pour quelqu'un, il y a ce désir sexuel. Après, j'ai envie de dire, peu importe la sexualité du couple, à partir du moment où ce couple est d'accord avec ce qui se passe.
Alors, comme vous êtes en train de dire, c'est encore une fois un des points qu'on a exprimé tout à l'heure, c'est l'échange. Justement, encore une fois, s'exprimer, écouter, bienveillance, empathie, voilà, tout ça, ça, c'est vraiment toutes ces clés. Et ça peut être en jeu dans la sexualité, qu'à un moment donné, bon, on s'accorde, on commence à se découvrir dans l'issue, on va dire dans le début de la relation. Et après, parfois, il y a des envies autres que qu'un des deux partenaires aurait besoin d'exprimer. Et justement, c'est à ce moment-là de peut-être poser, en parler tranquillement, de dire, voilà, moi j'aimerais faire ça ou essayer ça, est-ce que tu es d'accord avec moi ? C'est de jamais imposer à l'autre et d'exprimer, justement, de dire, parce que moi j'adorerais faire ça. Et c'est ça, encore une fois, cet échange qui est primordial. Alors, dans cette question que je vous pose, Alice, surtout, l'autre question qui vient derrière, c'est, quand on a l'échange et que le partenaire nous en parle, est-ce que si on refuse, c'est grave ? Alors, malgré le fait qu'il a exprimé, hein, vous voyez ?
Ouais. Alors, je n'emploierai pas le terme de c'est grave. C'est, j'ai envie de dire, tout dépend de la demande. Je veux dire, si on parle de pratico-pratique, on parle purement sexualité, que notre partenaire nous dit que telle chose lui ferait plaisir et que c'est vraiment pas entendable et faisable pour nous, nous avons le droit de le refuser. Après, nous, alors quand je dis, on peut quand même montrer l'intérêt de la personne, mm-hmm, et en disant voilà, ça c'est pas possible pour moi, mais par contre je te propose peut-être ça. Vous voyez, c'est vraiment
essayer de trouver un compromis, toujours
trouver un compromis et un accord. Parce que je veux dire, il n'y a pas de,
comme quoi on a bien écouté l'autre, mais qu'on est prêt à faire une concession qui est dans notre limite à nous. Voilà, c'est toujours pareil en fait. S'écouter à soi et écouter l'autre en même temps.
Voilà, c'est déjà moi. Et qu'est-ce que je suis prête ou prête à mettre de côté, mm-hmm, ou au contraire, qu'est-ce que je suis prête à faire pour l'autre, mais toujours dans le respect. Et comme je dis, dans l'harmonie sexuelle, il n'y a pas de normalité. Il y a au niveau du rythme. Vous voyez, il y a des gens qui exigent, qui se disent oui, en gros, si je ne fais pas l'amour tous les jours avec ma femme, ça ne va pas. Tandis que pour certaines autres personnes, une fois par semaine, au moins, ça suffira. C'est vraiment cette histoire d'harmonie. Et vraiment, ce qui est important, c'est de ne pas subir. Bien sûr qu'il peut y avoir des hommes qui subissent, mais plus souvent, moi, j'entends des femmes qui font, on va dire, pour faire plaisir à leur mari, parce que c'est normal, parce que c'est leur femme. Ben, moi, je dis, moi, ça, c'est dommage. Vous voyez ?
Oui, mais quand vous êtes dans la demande et que ça peut même amener à du conflit, Alice, vous voyez, si l'homme, le partenaire nous dit « Oui, attends, toi, moi, une fois par mois, attends, c'est pas possible. » Et après, ça devient un conflit. Donc, du coup, presque, la partenaire va dire « Bon, écoute, on va faire parce que, voilà, il y a même plus de plaisir, quelque part. »
Alors, exactement.
Il voilà, y a plus de plaisir, c'est presque une soumission, en quelque sorte, pour dire « Bon, mais au moins, j'ai la tranquillité. »
Voilà. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est dommage à un moment donné qu'il n'y ait plus de plaisir dans la sexualité. Parce qu'à la base, la sexualité, c'est du plaisir avant tout. Donc, je comprends effectivement, bien sûr, là on parle de cas vraiment opposés où la femme dit une fois par mois, l'homme dit tous les jours. Bien sûr que c'est compliqué. Après, on va dire, il peut y avoir des attentions, on peut mettre en place, on va dire, voilà, des façons de faire dans la relation de couple, dans l'intimité, même s'il n'y a pas, on va dire, un type de relation sexuelle, on peut quand même donner l'attention de. Après aussi, c'est important d'exprimer, justement, quand on passe des phases où la libido est moindre chez l'un et de l'autre, de dire, écoute, en ce moment, j'ai moins envie, je suis désolée et je comprends à quel point c'est dur pour toi. Vous voyez, c'est pas rejeter l'autre pour dire, attends, mais n'importe quoi, moi, j'ai pas envie, c'est comme ça et c'est tout. C'est pas ça que je vous dis. C'est de dire, voilà, moi, aujourd'hui, comment je me sens, quels sont mes besoins, je comprends que c'est difficile pour toi et on va tout faire pour qu'on arrive, justement, à retrouver un équilibre.
Oui, okay, c'est sûr, c'est cet équilibre qui est compliqué parfois à trouver, justement.
C'est ça, j'ai pas de pipoter, c'est vraiment en avoir la volonté, parce que je trouve ça réellement, dommage de subir dans ce sens-là. Oui, parce qu'après, quand on subit, ça crée de la rancœur, ça gangrène et ça crée problème.
Et oui,
voilà, c'est ça en fait.
Et oui, exactement.
C'est sur des mois, sur des années, la problématique. Donc vraiment aussi la question de la sexualité, qu'on le veuille ou non, est très très importante dans ce couple.
Et le dernier point, Alice, avant qu'on aborde cette fin d'heure qui est si précieuse pour commencer cette année, le conseil et les clés pour une bonne, on va dire, la bonne relation de notre couple, l'idéal, en quelque sorte, le dernier conseil.
Voilà. Alors, ce dernier conseil, on va dire, qui est là, je ne sais pas s'il va être compréhensible et entendable. C'est comme je dis, c'est de créer l'entité couple tout en restant soi-même. C'est-à-dire, à la base, on se rencontre, on est deux. à nous deux, on va former un couple et malgré tout, vivre dans son couple en restant soi-même. Alors, je ne sais pas si je suis claire. C'est-à-dire, c'est pas être individualiste, pas être fusionnel. C'est-à-dire de créer les habitudes à chaque rencontre. Dire, on ne peut jamais comparer aucun couple. Vous voyez, quand on me dit, oui, est-ce que sexuellement, c'était mieux avant, pendant ou après? Non, c'est pas ça. C'est qu'est-ce qui se passe dans ce couple? Qu'est-ce que j'ai envie d'y mettre? Qu'est-ce qui se joue? Mais sans m'oublier. C'est ça qui est compliqué.
Il ne faut pas s'effacer. Il ne faut pas tout changer pour l'autre au point de s'oublier. C'est oui, garder son identité, mais en même temps... C'est quasi impossible, Alice, de garder son identité parce qu'il y a quand même ses concessions à faire. Vous voyez ce que je veux dire ?
Ah, je ne suis pas tout à fait d'accord. Alors, on peut garder son identité. Par contre, on peut bien évidemment modifier son point de vue. On peut modifier sa façon de vivre, mais c'est vraiment de rester soi-même. Alors, bien évidemment qu'on évolue tout au long de notre vie avec les rencontres différentes. On ne va peut-être pas se comporter de la même façon ou avoir forcément les mêmes attitudes. Mais c'est les valeurs de qui on est réellement au fond de soi. Vous voyez, quand je dis ne pas changer pour l'autre, peut-être que quelquefois, s'il y a changement, c'est une découverte et ça peut nous faire du bien. Oui, c'est une évolution positive. Mais voilà, c'est ça. Mais c'est la notion vraiment de sacrifice. C'est ne pas me sacrifier, c'est ne pas me mettre de côté, c'est pas mettre l'autre plus en évidence que moi dans ce couple.
D'accord. Oui, c'est pas facile. Je trouve que le dernier point que vous êtes en train de donner. Il me semble que c'est presque celui le plus compliqué pour moi.
C'est pour ça que j'ai gardé pour la fin.
Je ne sais pas si c'était bien, Alice, quelque part, de le garder pour la fin. On aurait dû peut-être encore plus l'exprimer longtemps. Mais c'est vrai qu'il y a tellement ce dilemme entre changer pour l'autre sans s'oublier, faire des concessions, parce que malgré tout, il y a une évolution quand même à faire quand on est des jeunes fougueux célibataires et qu'on a une vie, vous voyez ce que je veux dire, de folie nocturne, etc., et un coup foum, une vie de couple, ça faut, voilà, vous voyez, donc quelque part on est obligé de changer, on s'oublie on évolue, voilà.
Moi je préfère dire évoluer, changer, c'est dommage de s'oublier.
Et oui, mais bon, on va pas être encore nocturne très longtemps.
on évolue. Après, chaque couple a des phases, comme dit, il y a le début, il y a un petit peu l'insouciance, la folie, voilà, tout ce qui joue dans le couple. Après, il y a cette routine qui peut se mettre en place ou ce rythme, on va dire, plus régulier. Ben non. Bien évidemment, quand vous dites c'est limite normal, ben je veux dire, ben ça c'est une mauvaise croyance.
Bon.
C'est d'être soi-même en créant ce nouveau couple. Mais c'est possible, hein ?
C'est possible ? Bon, si vous nous le dites.
Ah, mais oui.
Si vous nous
le
dites.
Et c'est comme ça qu'on réussit le mieux. Et on ne se perd pas l'un et l'autre. Et au bout des années, ça ne fait pas des explosions et des drames.
Bon, écoutez, Alice, je crois que vraiment, toutes ces clés du bonheur, que quelque part, on les a toujours exprimées dans toutes les émissions qu'on a pu faire ensemble, déjà depuis la rentrée. Et c'est vrai que quelque part, ils sont presque évidents, tous ces conseils que vous avez donnés aujourd'hui, les clés du bonheur pour la vie de couple. C'est vrai que voilà, l'échange, l'attention, l'écoute, s'exprimer voilà, avec une manière de le faire non accusateur, la confiance, le respect, accepter les différences, voilà, tout ça, la sexualité, ne pas non plus s'oublier, voilà, tout ça quelque part c'est presque des thèmes qui sont récurrents dans tout ce qu'on a pu aborder déjà depuis le début de l'année, mais que même s'ils paraissent évidents, eh ben on a du mal à les appliquer. Donc si vraiment dans ce cas-là vous êtes dans des dilemmes, que c'est très compliqué pour vous, eh ben moi je vous dis la vérité, n'hésitez pas, c'est pas pour mettre en avant Alice et tous les confrères avec qui vous pouvez aussi prendre conseil, mais c'est que parfois ça peut être très compliqué et justement l'aide précieuse d'une personne comme Alice ou d'autres fera vraiment un point positif dans votre vie, dans votre relation, surtout si vous en avez envie, c'est ça aussi, moi j'ai envie de dire, voilà, c'est envie d'avancer, envie de faire tout pour réussir, et donc si après tout ça au moins malheureusement la relation devait se terminer, eh ben au moins on sera bien en accord avec nous en se disant qu'on aura tout fait.
Pour on aura tout essayé, voilà, c'est vraiment ça le principal.
Voilà, et de justement ne pas être détruit après justement cette relation. Alice, nous on est là, toujours dopés à vos conseils, on essaye vraiment d'être à fond derrière vous. Alors on vous retrouve, Alice, afin qu'on puisse, en dehors de l'émission Alice et vous, mais à votre propre cabinet, rappelez-nous les coordonnées au cas où.
Au cas où, mon numéro est le 06 48 72 79 97. Je vous retrouve principalement à mon cabinet de Saint-Cyr-sur-Mer. J'ai également un cabinet sur Avignon. Et pour connaître toute mon actualité en termes d'ateliers, de formation, vous pourrez donc la voir sur mon site Facebook, Alice Lecomte Psychanalyste.
Et Alice, qui vraiment merci d'avoir débuté avec nous cette année sur des points vraiment qu'on a envie d'espoir, de positivité, de bienveillance pour vous qui êtes en couple et qui voulez connaître les clés du bonheur. Eh ben, vous les avez eues en 10 points. Et si vous hésitez encore sur quelques sujets que vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à consulter Alice ou tant d'autres qui seront là vraiment pour vous apporter tout le réconfort et tous les bons conseils nécessaires à une bonne relation de couple. On vous remercie Alice, on se retrouve dès la semaine prochaine, 17h, 18h, même endroit, même heure. Et merci et encore une bonne année Alice et bonne santé surtout.
Une bonne année, merci beaucoup.
Bonne soirée, à vendredi prochain.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.